So, I do know that my responsibility as moderator is to keep everybody to time. And I also know that we are not to time. However, having heard what I've just heard, which was brave, moving, informative, inspirational, I decided it was worth just letting the clock keep ticking. So I apologize that we're running late. Now, we move to the second part of the opening session. And I'm delighted to welcome Monsieur Lognot, who is a philosopher and who's going to talk about the consequences of brain injury in terms of what happens to the need to love and to be loved. And this is from a philosopher's perspective. Thank you.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, donc, vous savez que la philosophie prend souvent son envol à la tombée du jour. Hein, c'est Hegel qui racontait cela. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'effectivement, la philosophie prend son envol une fois que le jour est passé. Donc, ça veut dire après l'expérience. Et donc, c'est tout à fait judicieux d'avoir d'abord demandé à des personnes concernées qui vivent ça dans leur chair de témoigner effectivement des difficultés ou des chances qu'elles ont pu retrouver après les épreuves. Cela me permet effectivement du coup de pouvoir intervenir maintenant, c'est-à-dire c'est la seule chose qu'on peut demander à un philosophe, on n'est pas thérapeute évidemment, mais c'est en tout cas d'essayer de mettre des mots sur l'expérience. Et donc ce que j'ai prévu ici, c'était de dire effectivement avec les ressources qui sont les miennes, de mettre des mots, donc de dire un peu ce qui est en jeu dans ce genre de situation par rapport à l'affectivité, par rapport à la vie sexuelle, lorsque l'on a vécu effectivement un traumatisme qui est loin d'être anodin. Alors, vous verrez que dans ce que j'ai prévu, il y a incontestablement des liens avec les témoignages que nous avons entendus. Alors, s'il fallait essayer donc, quand on veut aider éventuellement, essayer de mettre des mots donc sur ce que l'on vit dans ce type d'épreuve, il y en a un que moi j'utiliserais en tout cas, qui me semble être une évidence, et les témoignages, me semble-t-il, le disent indirectement, c'est qu'on est clairement dans une situation... suite à l'accident, qui est une situation de deuil, c'est-à-dire une vie qui bascule évidemment, une vie qui ne sera plus jamais de manière irréversible, plus jamais comme avant. Et c'est dans ce contexte-là particulier que l'on peut interroger effectivement ce que devient la vie affective et sexuelle des personnes qui sont embarquées ainsi dans un revirement de l'existence. Alors pour dire les choses très généralement, parce que ce n'est pas le deuil qui va me retenir directement, mais enfin, il y a quand même deux, trois petites choses à dire. Dans ce que nous avons entendu, on voit bien que le deuil, ce n'est pas simplement, ou en tout cas que c'est beaucoup trop vaste lorsque l'on dit le deuil, c'est faire le deuil de la vie d'avant, puisque avec l'accident, évidemment, ce ne sera plus comme avant. Si on veut être un peu plus précis, quand on entend les personnes en parler, on se rend compte que dans le fond, ce dont on fait le deuil, et dans toutes les situations de deuil d'ailleurs, pas que dans les situations évidemment qui nous concernent ici, mais ce dont on fait le deuil, c'est toujours de soi. On ne fait jamais le deuil de quelque chose qui nous est extérieur, par exemple la vie d'avant. Ça, c'est ce que j'ai vécu avant, et voilà, il faut que j'apprenne à lâcher ça, un peu comme on doit lâcher la santé qu'on avait avant, ce genre de choses. En réalité, si c'était aussi simple, si c'était ça qui était en jeu, on pourrait faire un deuil très facilement. La question se pose de savoir... pour comprendre où est le problème, mais dans le fond, pourquoi pour moi c'est difficile d'accepter de lâcher ce que j'ai perdu. Et si vous prenez conscience que la souffrance ou la colère, la révolte éventuellement, elle est en moi, elle n'est pas dehors dans la santé d'avant, dans la vie d'avant, c'est en moi, c'est moi qui râle et qui n'arrive pas éventuellement à accepter le changement que je dois subir, eh bien vous comprenez que donc le deuil, là où il se joue, c'est bien en soi, dans cette souffrance que l'on endure, et non pas dans toutes les choses extérieures que l'on pourrait convoquer. Et si vous allez un peu plus loin, et on l'a entendu dans les témoignages, vous vous rendez compte que dans le fond, on fait le deuil de trois choses qui nous concernent et qui définissent ce que nous sommes en tant qu'être humain. Alors la première chose, ça semble être évident, c'est d'abord à ça qu'on pense, c'est évidemment l'identité. Donc c'est pas simplement ma vie d'avant, mais en perdant ma vie d'avant, c'est ce que je suis, évidemment, qui est définitivement perdu, périmé et qui ne pourra plus jamais être retrouvé. Et c'est vrai que de changer d'identité, d'oser ou d'accepter, de lâcher ce qu'on a été pour accepter ce qu'on est devenu, c'est clair, vous pouvez bien le deviner, que c'est un parcours du combattant, on ne fait pas ça évidemment simplement. La deuxième chose qui est en jeu, c'est évidemment la relation aux autres. Et alors, elle est vécue souvent dans les témoignages que moi j'ai entendus par ailleurs, dans d'autres circonstances aussi. C'est vrai que donc on doit changer, on doit perdre, accepter de perdre les relations ou les façons d'être en relation avec les autres que l'on a connues auparavant. Ça se vit de deux façons, et on l'a entendu ici aussi, évidemment. La première, c'est que suite à l'accident, d'abord, on a le deuil de relations concrètes, des gens qu'on ne verra plus. Un amour que l'on perd. Parfois, ce sont des amis, parfois, c'est même des membres de la famille qui commencent à être gênés, qui ne savent plus quoi dire, et finalement, ils ne viennent plus tout simplement. Donc, il ne suffit pas d'accepter ce qu'on devient. Il faudra encore accepter notre façon d'être en relation, ou plus exactement, le fait de perdre des relations avec certaines personnes. Et puis, dans les relations, il y a un deuxième aspect aussi qui est assez intéressant, qui est un peu plus subtil, mais j'étais content de l'entendre aussi ici. C'est pas tellement que l'on perde nécessairement des relations, mais c'est le fait que l'on perd une façon de les vivre. C'est le regard des autres qui a changé. Donc autant avant, c'est la vie ordinaire qui se passe finalement, et on a des relations avec des gens qu'on aime, qu'on n'aime pas. Et puis tout d'un coup, une fois que les autres savent que l'on a eu tel accident, tel problème, ils restent toujours présents, mais entre moi et eux, il y a toujours cette maladie, cet accident, ce handicap, et c'est terrible. Maintenant, ils me regardent avec de la pitié, ils ne savent plus quoi dire, ils sont là gênés. Est-ce qu'on peut encore rire de tout? Est-ce qu'on peut encore rire des personnes handicapées? Enfin, tout devient un problème. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disaient dans d'autres circonstances, quand on sait ça, quand on entend d'autres raconter, oui, mais faites attention, parce que ce sont les relations aussi qui ne sont plus les mêmes. Les gens ne vous regardent plus de la même façon. Il y a des gens qui disent, alors si je peux, je ne le dis pas que je suis malade ou que j'ai tel problème. Parce qu'on a trop peur, et on voit bien que c'est un deuil qui n'est pas facile à vivre, on a trop peur de sortir de relations qui vont de soi, qui coulent de source, pour rentrer dans des relations qui sont des relations maintenant embarrassées, parce qu'on ne sait plus comment on va devoir faire, comment on sera regardé, comment on sera jugé par les autres. Donc vous avez les relations aussi qui basculent du jour au lendemain, évidemment, avec ce genre de situation. Et puis vous avez un troisième deuil à faire, c'est pour vous dire que c'est toute la vie, évidemment, qui est bouleversée. C'est évidemment tout ce qui va concerner les projets. Quel projet encore je vais pouvoir bâtir? Par exemple, dans ce qui nous concerne ici, est-ce qu'une vie amoureuse sera encore possible, une vraie vie amoureuse? Ou est-ce que ce sont des ersatz de vie amoureuse? On fait ce qu'on peut, c'est quel avenir? Est-ce que je pourrais encore fonder une famille si je suis jeune et que j'ai envie de le faire? Est-ce que je pourrais avoir des enfants? C'est tout qui est remis en question d'une façon ou d'une autre, parfois à tort, mais on a peur que ça remette en tout cas toute une série de questions, de projets, en question. Alors notez bien, dans ce que nous avons entendu, c'est pas simplement pour la personne, évidemment, qui subit l'accident, que c'est tout qui bascule, l'identité, les relations et les projets. Mais s'il y a des personnes ici qui sont des proches, l'entourage, les conjoints éventuellement, etc., des familles, c'est clair que pour les familles, c'est pareil. Ou pour le conjoint, c'est exactement la même chose. On peut bien juger, effectivement, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de révoltant, juger ceux-là qui disparaissent dans la nature parce que, l'autre a eu un accident et c'est trop dur. Mais si vous essayez de suspendre un instant votre jugement, je ne dis pas qu'il ne faut pas juger, ça on fait ce qu'on veut, mais si vous essayez de suspendre votre jugement pour essayer de comprendre, mais comment un type peut avoir le courage d'abandonner quelqu'un qui traverse une épreuve pareille? Comment une femme peut avoir ce courage-là aussi de fuir à toutes jambes? Une des explications, quand vous discutez avec ces personnes, c'est de comprendre que pour elles, l'accident de l'autre, c'est vrai que c'est l'autre qui l'a, l'accident, mais pour la personne qui l'accompagne, pour les proches qui accompagnent, c'est un deuil terrible aussi à vivre. C'est aussi une vie qui bascule. Et pour le dire simplement, si vous prenez les trois points que j'ai évoqués, c'est vrai qu'on peut l'imaginer, si on n'est pas dans la situation, que d'être le conjoint de quelqu'un en bonne santé, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez être le conjoint de quelqu'un qui maintenant est malade à vie, avec les handicaps qui seront les siens ou les limites qui seront les siennes. Mais vous comprenez bien que vous n'êtes plus le même. Alors on a beau dire, oui, mais c'est quand même l'autre qui trinque. Mais oui, mais pour le conjoint, c'est aussi une vie qui est perdue. Il ne sera plus jamais le même qu'avant. Sa vie ne sera plus jamais la même qu'avant. Et c'est vrai que de venir dire, c'est pas toi qui as eu l'accident, c'est trop facile. C'est juste, c'est pas faux. Mais c'est trop facile parce qu'on ne se rend pas compte à quel point pour l'autre, c'est aussi toute une vie qui est perdue à jamais. Et donc, de voir comment les gens arrivent à remanier la chose, à accepter éventuellement de vivre cette nouvelle vie, c'est vrai que c'est tout ce processus de deuil dont on doit parler. Et puis, c'est vrai que les conjoints aussi disent parfois, ou les proches de la famille, que les relations avec les autres vont changer. C'est vrai que certains, dans certaines situations du moins, dans ce que moi je connais, disent... en aparté, pas devant l'autre, évidemment, mais c'est vrai qu'on a parfois l'entourage qui s'inquiète pour nous. Et comment tu tiens le coup, hein, et on voit bien qu'on rentre dans cette logique où on n'est plus vu de la même façon, hein, par l'entourage qui, tout d'un coup, maintenant s'inquiète, qui n'ose plus parler de certaines choses devant nous parce qu'on sait bien qu'on est le conjoint de quelqu'un à qui, ou bien ce sont carrément des relations qu'on perd à cause du conjoint. Des relations qui sont embarrassées, qui ne savent pas comment vivre une relation simple avec quelqu'un qui a un handicap. Et du coup, ben, on perd, le conjoint perd lui aussi la relation avec ces personnes-là. Enfin bref, c'est aussi un deuil de ce côté-là, évidemment, qui est difficile à vivre parfois. Et puis c'est immanquablement pour le conjoint, ça on le devine bien, ben, également des projets d'avenir, hein, qui sont perdus éventuellement ou que l'on redoute de perdre définitivement. Enfin si vous regardez, donc c'est vrai que le contexte dans lequel nous sommes, c'est un contexte que l'on pourrait définir d'un mot s'il fallait essayer de dire « mais qu'est-ce que je vis à ce moment-là ? Enfin, c'est quoi ma vie aujourd'hui ?» C'est un contexte de deuil où il s'agit de se libérer finalement, de quitter, de faire le deuil de ce que l'on n'est plus, de toute cette vie que l'on n'est plus. Et souvenez-vous que le but d'un deuil, évidemment, c'est, parce que rien que ça, ce serait faux, évidemment, ou ce serait en tout cas que la moitié du chemin. Donc le but d'un deuil, c'est d'aider en se libérant, en quittant tout ce que l'on n'est plus, eh bien, c'est de parvenir à se réapproprier, à apprivoiser ce que l'on est devenu, qui est la condition pour pouvoir être heureux. Vivre, et là on n'a pas jugé, chacun fait comme il peut, évidemment, mais vivre, évidemment, dans le fait que l'on ne supporte pas ce que l'on est devenu, donc dans un deuil qu'on n'arrive pas à amener jusqu'au terme, c'est évidemment condamner sa vie à n'être plus qu'une souffrance. Et aussi bien donc pour la personne directement concernée, évidemment, que pour la personne qui accompagne éventuellement. Hein, si elle n'accepte pas la situation nouvelle qui est devenue la sienne, jamais elle ne pourra finalement accepter, évidemment, de continuer à vivre avec la personne qui est atteinte par l'attaque qu'elle a subie. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, quand on a campé un peu le décor ainsi, il y a deux points que je voudrais développer, donc très rapidement, puisque le temps, on l'a dit, comment est compté. Pendant le processus de deuil, quand on est dans ce processus, c'est-à-dire on n'a toujours pas accepté ce qu'on est devenu, comment voulez-vous, et des gens le disent, et on peut bien le comprendre, comment voulez-vous qu'on accepte une chose pareille ? Je suis en guerre totale contre tout ce qui m'est arrivé. Alors, on vit avec, on fait ce qu'on peut, mais dans le fond, je n'ai pas accepté. Eh bien, quand on est dans ce processus de deuil qui n'est pas encore fait, qui n'est pas encore abouti, où voilà, on n'arrive pas à se réconcilier avec ce que la vie a fait de nous, eh bien, c'est vrai que là, la question de la vie affective et de la vie sexuelle prend une coloration particulière. Et ce qui est important, enfin, moi, me semble-t-il, c'est tout simplement que derrière des revendications ou des demandes ou des attentes que l'on peut avoir et que l'on peut donc entendre chez des personnes qui vivent ces moments-là, il ne faut pas perdre de vue que derrière, il n'y a pas que la demande autour de la vie affective et sexuelle, il y a probablement une question plus cachée, si vous voulez, moins évidente, parce que justement, parfois, on veut justement la fuir, c'est évidemment cette question d'un deuil qui n'arrive pas à se faire. Et donc, il ne faut pas se tromper d'enjeu. On pourrait essayer de répondre directement à la demande affective ou à la demande sexuelle, mais ce ne sera que finalement une fuite désespérée pour ne pas faire un deuil que l'on doit quand même faire. Alors, je vous donne trois exemples de ces situations dans les choses les plus courantes que moi je connais, où parfois on voit bien qu'on est dans quelque chose qui échappe à la sexualité ou à la vie affective, où ce n'est que la partie émergente, si vous voulez, mais il y a derrière, évidemment, une souffrance qui est d'un autre ordre. Alors, la première situation que j'évoque ici, pour être un peu concret, c'est par exemple des personnes qui, suite à un accident comme celui-là, voient les questions sexuelles ou la vie affective comme une obsession. Ça devient ce qu'il faut absolument faire, il faut absolument faire l'amour avec quelqu'un, il faut absolument trouver quelqu'un pour être aimé. Et ça devient l'obsession de la vie. Alors, dans certains cas, parce qu'il est vrai qu'on a besoin d'être aimé, ça n'enlève rien au fait que c'est un besoin fondamental. Mais dans certains cas, quand vous êtes dans le contexte que j'essaye de décrire ici, c'est vrai qu'on peut craindre que la sexualité soit, ou autre chose, mais enfin, ça peut être la sexualité, effectivement, ou le besoin d'être aimé, eh bien, ça soit en fait une fuite pour se distraire du deuil que l'on a à faire. Donc, c'est absolument ça qu'il me faut, trouver l'âme sœur, et pendant que je suis obsédé par cette question de l'âme sœur que je dois trouver, évidemment, une chose à laquelle je ne pense plus, ou que j'essaye du moins de fuir désespérément, à laquelle, donc, je veux essayer de me dérober, c'est qu'en attendant, est-ce que moi, j'accepte ce que je suis devenu ? Eh bien, c'est plus ça la question. La question, c'est quelqu'un qui doit m'aimer, c'est tout. Et on espère en plus, parfois maladroitement, qu'en trouvant quelqu'un qui nous aime, évidemment, ça nous permettra de pouvoir nous aimer nous-mêmes. Et ça, évidemment, c'est le malentendu le plus total, parce qu'on demande d'emblée à l'autre, évidemment, ce qu'il ne peut pas nous donner.
Et donc ce sont des relations souvent qui commencent mal, bien sûr. Rien que par rapport à ce que j'ai entendu ici, pour trouver une autre porte d'entrée, pour que vous voyez où est la fuite, hein, c'est quand effectivement dans la vie affective ou dans la sexualité, on essaye de retrouver quelque chose comme la vie d'avant. Mais c'est justement ça qu'il faut perdre. C'est justement ça qu'il faut oser lâcher. La vie d'avant, c'est fini. Et on voit bien que quand on se met dans ce trip d'essayer de retrouver quelque chose qui me permettra de continuer la vie d'avant, de la prolonger comme avant le plus possible, il y a quelque chose qui rentre en résonance avec un problème beaucoup plus fondamental et qui est ce deuil, peut-être, que l'on n'arrive pas à faire. Il faut essayer, pour s'en sortir, de retourner en quelque façon dans le passé et de le prolonger. Donc là, évidemment, on voit bien que à la fois la demande est légitime, évidemment. Hein, donc le besoin d'aimer, je vous l'ai dit, est tout à fait fondamental. Ça, tout le monde le sait bien. Et le besoin même sexuel est un besoin qui est fondamental aussi. Mais en attendant, lorsqu'il y a cette quête de retrouver quelque chose d'avant ou de se distraire de ce que l'on doit vivre d'abord, ben c'est clair que là, ça risque de conduire à pas mal de désillusions finalement, et ça ne fait que reporter la souffrance évidemment de la situation que l'on vit. Deuxième exemple que je vous donne, où on voit bien qu'on est dans autre chose et que donc il ne faudrait pas se focaliser hein, sur la vie affective ou la vie sexuelle parce qu'elle cache peut-être un autre enjeu, c'est dans la relation de couple. Hein, si effectivement on a affaire à des personnes qui étaient mariées avant l'accident, c'est évident qu'il arrive parfois, ce n'est pas une règle générale, mais il arrive parfois que le couple devienne le lieu de toutes les bagarres. Donc c'est la colère, c'est la violence, c'est les reproches faits à l'autre, tu ne me comprends pas, tu ne sais pas ce que c'est pas toi qui es malade, enfin bon, ce genre de choses hein, que l'on peut entendre, et c'est vrai, enfin, bon, on peut comprendre qu'évidemment ce genre de choses se disent, mais vous comprenez bien que derrière ces reproches, jusqu'à finalement des relations amoureuses qui vont être détruites parfois, qui ne survivront pas à ce genre d'aventure, il peut y avoir ceci. Le conjoint, bien malgré lui, eh bien, rappelle évidemment à celui qui a subi l'accident toute la vie d'avant et tout ce qu'il a été. Et donc il fait partie du problème, si vous voulez. Comment pouvoir vivre cette vie qui est désormais la mienne en restant en présence de quelqu'un que peut-être j'ai aimé, que j'aime peut-être encore, mais qui a ce défaut involontaire de me rappeler tout ce que je ne suis plus, toute cette vie que j'ai perdue. Et c'est vrai que du coup, c'est la cible privilégiée de la rancœur, de la colère. Mais comprenez bien, hein, par rapport à ce que je vous ai raconté dans le premier point, on en voudra à l'autre, on va cracher son venin de ce côté-là. Hein, c'est vrai que voilà, ça va sortir comme ça et on va attaquer l'autre parce qu'il me rappelle tout ce deuil que je n'ai pas encore fait, toute cette vie d'avant que je n'ai pas encore lâchée. Mais en attendant, n'oubliez donc pas que ce n'est pas l'autre qui est la cible. Ce qui est la cible dans ces tensions de couple qui peuvent apparaître, dans ces complications qui peuvent surgir, c'est évidemment le fait que je n'accepte pas ce que moi je suis devenu. Malheureusement, ça sort sur l'autre. Mais c'est de nouveau une fuite pour ne pas aborder le vrai problème. Parce que le problème, ce n'est pas l'autre qui a lui-même le problème de faire son propre deuil. Le problème, c'est moi qui n'accepte pas ce que je suis devenu. Et du coup, je le reproche à l'autre, qui n'est plus que celui qui me rappelle tout ce que je ne suis plus par conséquent. Donc là aussi, dans des tensions de couple, et quand vous avez des questions, mais comment faire, comment renouer une vie de couple, etc., le problème, ce n'est pas d'aller voir un sexologue qui s'occuperait effectivement de sexologie au sens strict du terme, réduit du terme. Le problème ici, c'est d'aller trouver quelqu'un. Ça peut être le sexologue aussi, remarquez bien, hein. Ou bien un psy, ou je ne sais pas qui d'autre, qui vous voulez, mais qui va d'abord résoudre le problème de deuil qui ne se fait pas, de façon à ce que les questions de sexualité puissent être abordées. Et normalement, ceci dit entre nous, puisqu'on parle de sexologie, les sexologues font ça aussi, mais enfin, c'est pour dire qu'il ne faut pas se braquer sur la question du sexologue ou de la sexualité qu'on identifie au sexologue, hein, au sens réduit du terme, évidemment, hein. Donc il y a autre chose derrière. On voit bien qu'on est dans un contexte beaucoup plus vaste et que la vie affective ici qui fait difficulté, à un moment donné, dans un couple, eh bien, donc, cache évidemment ce contexte plus vaste. Et puis le troisième situation relativement fréquente, je ne sais pas si elle est fréquente statistiquement, mais enfin, ce sont des choses que l'on entend, c'est évidemment lorsque la sexualité ou la vie affective devient tout simplement, et ça fait partie des processus de deuil, bien sûr, devient un enjeu de marchandage. C'est-à-dire, je veux bien continuer à vivre la vie qui est la mienne, mais à condition que quelqu'un puisse m'aimer. Ou à condition que je puisse trouver des partenaires sexuels et partager du plaisir avec cette personne. Et sans cette condition, ma vie n'a pas de sens. Eh bien, c'est vrai que quand vous avez des personnes, de nouveau, qui sont dans du marchandage, qui font de la vie affective un marchandage pour accepter de continuer à vivre, cela traduit au moins un fait, c'est qu'elles n'ont pas accepté encore, évidemment, ce qu'elles sont devenues. Et là aussi, c'est demander à la vie affective, et demander à la sexualité ce qu'elle ne peut pas vous donner, évidemment. Donc, dans un contexte de deuil, lorsque on est en guerre contre ce que la vie a fait de nous, c'est clair que la question de la vie affective va émerger, la sexualité aussi, forcément. Hein, et c'est vrai que des demandes vont être formulées, des tentatives vont être cherchées pour trouver une solution par rapport à cette nécessité d'être aimé. Mais vous comprenez bien que, évidemment, d'y répondre seulement sans voir tout ce qu'il y a derrière, c'est être soi-même maladroit et c'est finalement condamner à la désillusion hein, ces personnes que l'on prétendra aider simplement parce qu'on ne voit pas là où ça fait mal, c'est-à-dire dans ce deuil qu'il faut faire. Alors, parce que je vois qu'il est déjà l'heure, juste un deuxième point. J'en avais prévu d'autres, mais enfin, tant pis, je laisse tomber. Quand un deuil est fait, donc quand on a cheminé, si vous voulez, de façon à bricoler une façon d'accepter ce que la vie a fait de nous. Je vous ai dit, ça on peut le comprendre ne fût-ce qu'intellectuellement, comment voulez-vous être heureux si on n'aime pas ce qu'on est ? C'est clair que ça commence mal et que vous vous mettez dans une situation qui est une situation à impasse. Quand on a fait ce cheminement, qu'on a traversé éventuellement ces périodes d'errement où on a cru trouver dans l'amour de l'autre ce qui allait nous sauver, quand on a, on a cherché désespérément, quand finalement, à travers tous ces détours, on peut dire à un moment dans sa vie, moi c'est ce que je suis aujourd'hui et c'est pas facile tous les jours, mais je pense que j'accepte finalement ce que la vie a fait de moi. Eh bien, ce que vous avez accepté, c'est pas simplement la maladie, c'est pas simplement le handicap ou les difficultés que l'on a dans sa vie suite à l'accident, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental et qui est essentiel pour pouvoir vivre une vie affective et sexuelle qui tienne la route, c'est-à-dire qui soit susceptible de rendre heureux, pour le dire simplement. Et ce que l'on a accepté, si vous voulez, pour essayer de mettre des mots là-dessus, c'est trois choses. Alors la première chose, c'est d'abord la finitude humaine. Alors la finitude humaine, c'est ceci. Comprenez bien, parce que tout le monde sait bien qu'on est fini. C'est tout simplement être à l'aise avec le fait qu'en tant qu'on est fini, on est quelqu'un qui ne peut pas tout. Donc ça veut dire très concrètement, par rapport au thème qui nous intéresse ici, ça veut dire que pour chacun d'entre nous, avec accident ou sans accident de toute façon, nous sommes tous limités dans la façon d'aimer. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Enfin si, on peut faire tout et n'importe quoi, je veux dire, il n'y a pas de loi qui nous empêche de faire tout et n'importe quoi. Mais humainement parlant, chacun d'entre nous, nous sommes ce que nous sommes, et il y a des choses que nous aimons, il y a des choses que nous n'aimons pas. Il y a des choses que nous sommes capables de faire, et il y a des choses que nous ne sommes pas capables de faire. C'est la finitude humaine. Eh bien, suite à un accident, évidemment, il est clair que je suis ramené à cette finitude. Il y a des choses que, éventuellement, je ne pourrai plus jamais faire. Il y a des choses qui, pour moi, seront devenues désormais compliquées, difficiles, et voire même impossibles. Eh bien, c'est d'accepter cette finitude. Plus vous serez à l'aise, et plus vous comprendrez que c'est normal que dans le fait d'aimer, on ne soit pas capable de tout pour l'autre, et moins on aura peur d'aimer, et moins on aura peur de se laisser aimer. Par contre, si on est dans cette idée que pour aimer, on devrait être capable de tout, que la maladie rend impossible, alors évidemment, je me mets dans une situation où j'aurai déjà peur d'aimer, où j'aurai peur du regard de l'autre, etc., etc., et la relation devient évidemment insupportable. Donc la première chose dans un deuil réussi, dans un deuil qui a plus ou moins abouti, on dira la première chose avec laquelle on se réconcilie et qui rend possible une vie amoureuse, c'est tout simplement ou une vie ou du plaisir sexuel, si on se limite déjà rien qu'à cela, même le plaisir sexuel lui-même, on ne peut pas tout faire, on n'est pas à l'aise avec tout ce que l'autre demande que l'on fasse éventuellement. Donc d'accepter cette finitude et de pouvoir la défendre. Je suis quelqu'un qui est comme ça, avec ces possibilités-là et sans ces possibilités-là, et de demander à l'autre d'aimer cela, eh bien plus vous serez à l'aise avec cette finitude et plus vous allez rendre possible cette vie affective. Donc c'est de faire le deuil, par conséquent, s'il fallait le dire autrement, c'est de faire le deuil de la toute-puissance, si vous voulez. On ne serait aimable qu'à la condition d'être parfait, d'être tout-puissant, capable de tout. Vous vous tirez déjà une balle dans le pied quand vous vous mettez dans cette situation-là. La deuxième chose dans un deuil, quand on est arrivé au bout du chemin, plus ou moins, eh bien, la deuxième chose que l'on doit accepter, qui est aussi une réalité qui est indépassable, et que l'accident, évidemment, des accidents comme ceux qui nous réunissent aujourd'hui, montrent en plein jour, de façon souvent dramatique, en tout cas au début, c'est évidemment le fait que nous sommes une solitude indépassable. Donc dans le deuil, c'est vrai que ce que l'on a accepté, ce n'est pas simplement que les autres nous regardent différemment ou qu'ils nous quittent. Ce que l'on constate, même quand on est pris dans une relation avec quelqu'un d'aimant, c'est que ce que nous sommes, c'est une solitude indépassable. Ça veut dire quoi ? Ben, dans un couple, j'en parlais tout à l'heure parce que c'est parfois un reproche qui est formulé à l'autre. Dans un couple, on pourrait reprocher à l'autre, effectivement, tu ne me comprends pas, tu ne sais pas ce que c'est parce que tu ne le vis pas. Eh bien, le reproche est très juste. C'est dommage de le formuler sous la forme d'un reproche, mais c'est tout à fait juste, cette idée. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on ne vit pas la chose, on ne sait pas ce que c'est. Et si vous êtes d'accord avec ce constat bête, hein, simple, eh bien, ça nous condamne effectivement à une solitude indépassable. L'autre ne vit pas, comme moi, la situation dans laquelle je suis parce que lui n'a pas été atteint dans son corps. Et dans ce qu'on a entendu dans les témoignages, c'est même pire que ça, parce qu'on pourrait se dire alors, ben oui, mais bon, donc si on est entre personnes atteintes de la même accident, ben donc on pourra au moins se comprendre. Mais ce que nous avons entendu, et qui est tout à fait juste, bien sûr, enfin, comment voulez-vous que je dise l'inverse, c'est que même entre ces personnes, c'est encore différent. Il n'y en a pas deux qui vivent la chose de la même façon. Et donc, même entre pairs, c'est encore l'expérience de la solitude que l'on retrouve. Et donc, plus vous serez à l'aise dans ce processus de deuil, plus vous serez à l'aise avec cette solitude indépassable qui nous définit tous, qu'on soit atteint par un accident ou non, qu'on soit touché par un accident ou non, on est tous une solitude indépassable, et moins vous demanderez à l'autre ce qu'il ne peut pas vous donner. C'est-à-dire que souvent dans l'amour, c'est un des pièges de l'amour, évidemment, mais qui est délicieux. Mais souvent, donc, dans l'amour, ce que l'on demande, ou dans la vie affective, ce que l'on demande, voire même dans la sexualité, si on se limite à la sexualité, ce que l'on nous demande, c'est souvent « libérez-moi de cette solitude insupportable ». Qu'on puisse enfin être à deux et se supporter l'un l'autre, s'aider l'un l'autre, se comprendre l'un l'autre, ne plus être seul, quoi. Souvent, l'amour est vu comme une tentative désespérante et désespérée, hein, d'échapper à cette solitude qui nous définit. Eh bien, ça, c'est une pathologie de l'amour. Et c'est demander à l'autre, effectivement, ce qu'il ne pourra jamais vous donner, parce qu'il n'y a jamais personne qui vous libérera de la solitude qui est la vôtre. Ce que l'on doit demander à l'amour, et qui devient possible quand le deuil est fait, hein, tant qu'on est dans les illusions de la fusion et tous ces bazars-là, évidemment, c'est impossible, c'est inaudible, ce que je vous raconte. Mais quand on a fait tout ce cheminement, quand on se casse la figure, quoi, je demande à être aimé et à être libéré de moi-même, et je vois bien que l'autre n'y arrive jamais, quand progressivement on accepte ce constat, qu'on accepte cette idée, eh bien, on comprend que ce qui est en jeu dans une relation affective, c'est ceci, me semble-t-il, s'il fallait le dire très généralement, c'est non pas donc de nous aider à échapper à la solitude qui est la nôtre, de par notre situation, de par notre vécu, mais c'est au contraire de demander à l'autre de nous confirmer dans la solitude que nous sommes, c'est-à-dire de rendre aimable cette solitude qui nous définit. Donc non pas y échapper, mais au contraire la confirmer toujours plus. Et il y a une belle formule pour dire ça, hein, qui dit ceci, dans le fond, aimer quelqu'un, c'est quoi ? C'est tout simplement convertir la solitude de l'autre en l'être unique qu'il est pour moi. Tu es ce que tu es, avec les défauts que tu as, avec les limites que tu as, on est tous finis de toute façon, et c'est justement ça que j'aime. Donc quand on arrive à trouver la chance d'être aimé dans ce type de relation-là, alors effectivement, on peut commencer à bâtir, et là, effectivement, ça la porte du bonheur, évidemment. Tandis que quand on demande à l'autre « libère-moi de ce que je suis », ça c'est clair que vous n'irez qu'une fois encore de désillusion en désillusion. Et puis vous avez un dernier point, dernière chose aussi qui est en jeu bien sûr dans toutes ces situations, dans les deuils que nous devons vivre, donc dernière chose que nous devons accepter et qui est fondamentale de nouveau pour la vie affective et sexuelle, c'est tout ce qu'on appelle en philosophie l'incertitude de la vie, c'est-à-dire qu'on découvre effectivement à travers ce type d'accident notamment, ou à travers d'autres accidents de la vie, hein, remarquez bien, on découvre que la vie peut tout nous reprendre du jour au lendemain. Et qu'on peut être contre, on peut se révolter contre ce fait, mais en attendant, la vie, c'est ça. C'est quelque chose qui peut tout vous reprendre du jour au lendemain. Et que tant que vous refusez cela, tant qu'on vit dans la rancœur, dans l'injustice, pourquoi ça m'est arrivé, je n'avais rien fait pour mériter ça, c'est dégueulasse ce qui m'arrive, tant qu'on est dans cette logique où il m'était dû d'avoir ceci, d'avoir cela, de vivre comme ceci, de vivre comme cela, en tout cas de ne pas avoir cette chose, cet accident et les conséquences qui vont avec, tant qu'on est dans cette idée que tout nous est dû, il est clair que de nouveau, là, vous rendez la vie impossible, tout simplement pourquoi ? Ben parce que la vie n'est pas comme ça. Moi, je n'ai pas de théorie à vous donner sur le sujet, simplement parce que ce que je constate, ce que certains constatent dans leur chair, c'est effectivement que ben, on a beau croire que dans la vie, il y a des choses qui nous sont dues, de vivre en bonne santé jusqu'à la fin de nos jours, ben, en attendant, la vie n'a que faire de nos théories. C'est de la théorie, tout ça. La vie, en attendant, c'est autre chose. Donc, de nouveau, si on veut être heureux, eh bien, c'est en acceptant la réalité, et une des dimensions de la réalité, c'est d'accepter que la vie puisse effectivement tout nous reprendre à chaque moment. Et une fois que vous avez accepté ça, alors on peut commencer à accepter la situation dans laquelle on est suite à un accident. Et à ce moment-là, on peut commencer effectivement à aimer. C'est-à-dire que ce que l'on fait de nouveau, hein, vous voyez bien, c'est se mettre dans cette position. Et ça, c'est important par rapport au thème de ce colloque, où c'est vrai qu'on a besoin d'être aimé. Et c'est vrai que sans doute, quand on est atteint dans son corps, on a plus besoin encore que d'autres. On pourrait peut-être même dire une chose pareille. Je ne sais pas si ça a du sens, mais enfin, on pourrait l'imaginer. En tout cas, on pourrait le comprendre, qu'on le dise ainsi. Et pourtant, ce qu'il faut arriver à accepter d'abord, c'est que quand bien même on a besoin d'être aimé, rien ne nous est dû, c'est-à-dire qu'il ne nous est pas dû d'être aimé, effectivement. Et que le handicap n'est pas donc un prétexte pour exiger quoi que ce soit de qui que ce soit. On n'a pas à exiger comme pour n'importe qui d'autre. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on devient un cas à part. On reste un humain comme tous les êtres humains. Et de ce point de vue-là, pour chacun d'entre nous, il ne nous est pas dû d'être aimé par qui que ce soit. Il n'y a aucune injustice là-dedans, si ce n'est au regard de ce que l'on rêve, et qui est que dans mes rêves, c'est vrai que moi, j'aimerais bien quand même être aimé. Mais ça, ce n'est que des rêves. Donc, dans un deuil, ce n'est pas gai de faire un deuil. Mais voyez bien, quand on arrive au bout, quand on est parvenu à faire tout le travail que j'ai rapidement esquissé ici, on se réapproprie effectivement d'abord cette réalité que la vie nous impose, hein, et que de ne pas le voir, je ne sais pas ce qu'il faut, mais dans des situations comme celles qui nous réunissent ici, comment voulez-vous ne pas le voir? C'est donc se réapproprier la finitude, solitude, incertitude. Et plus vous allez vous réapproprier cela, donner du sens à cela que la vie nous impose, et plus alors vous donnez une chance à la vie affective de pouvoir se construire sur des bases qui sont des bases réelles. Non pas dans l'imaginaire, non pas dans l'illusoire, mais tout simplement donc sur base de la réalité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.
Yes, I know we're running short of time. However, I think that was just a perfect complement to the testimonies dealing with the important issues of grieving and making that transition from the person I was before to the person I am now and learning not just to accept the person I am now but to like the person I am now. That's a challenge for the person who's had the injury, for the family, and for the therapists and treating people who are trying to help the injured person make that transition. We should stop now, but I'm not going to. I do think we should have at least one, maybe a couple of questions or comments. So the floor is open. Unless people are desperate for coffee.
Donc en fait, j'aimerais revenir sur le deuil. Vous parlez beaucoup de deuil, d'acceptation, de la vie, de l'autre bascule. Mais il n'y a pas que le deuil. En fait, dans la première phase, après l'accident, oui, en effet, on a une vie à rattraper. Les projets ne sont plus les mêmes, comme vous avez bien pu le dire. Le souci, c'est que après le deuil, on fait la comparaison entre l'avant-après. Après l'avant-après, il y a l'acceptation. Et dès lors où on a pu accepter, il y a la renaissance. On dit toujours qu'il y a un phénix qui est en nous. Et en fait, c'est un peu ça. C'est notre vie d'avant qui a été perdue et une nouvelle vie qui commence. Ensuite, j'aimerais reprendre la compréhension de l'accident par l'entourage. Vous avez parlé que c'était... On pouvait parler beaucoup de l'accident, que les gens devaient comprendre l'accident, mais il faut savoir que des fois, les gens ne comprennent pas. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué pour nous qui sommes cérébro-lésés, parce que quand on a, par exemple, des traumas crâniens ou on a un handicap qui est complètement invisible, on peut dire non, tu fais semblant, c'est pas vrai, t'en joues, tu profites, alors qu'en effet, nous, au début, on essaye d'être normal. On essaye de paraître normal et si on n'a personne dans notre entourage proche qui est derrière nous dire « bah non, il y a un problème », on ne peut pas savoir qu'il y a un problème. Ensuite, j'aimerais revenir sur l'identité au niveau de notre identité qu'on perd. Il faut savoir que notre entourage proche, soit nos conjoints, ne sont pas là comme cible qu'on tire sur un fusil non plus, parce qu'en fait, ils nous raccrochent à une identité partielle en nous donnant des petits bouts de vie qui nous dit « bah oui, mais t'es peut-être plus comme ça, mais tu faisais déjà ça avant et tu sais encore le faire maintenant ». Donc c'est aussi important de s'accrocher sur des choses que nous étions avant et de pouvoir s'accrocher, même si c'est des choses qui sont infimes, pour pouvoir nous relever petit à petit psychologiquement envers une sociabilisation affective envers les personnes qui sont proches de nous. Après, vous avez aussi parlé des projets. Effectivement, les projets dans l'avenir sont extrêmement difficiles parce qu'on nous met énormément de barrières concernant, par exemple, l'achat d'une maison, concernant les projets professionnels qui sont difficilement réalisables. Comme de plus, des fois, ça paraît tellement invisible que d'un point de vue professionnel, on nous dit bah non, mais t'es capable de tenir une journée complète alors qu'on est capable de tenir que 2 heures. Les gens ne comprennent pas forcément ce qui se passe, comment nous réagissons. Et d'un point de vue extérieur, c'est très compliqué par des personnes qui sont complètement inconnues à la situation de paraître ce que nous sommes. Ensuite, il y a aussi l'acceptation. Vous avez parlé de l'acceptation tout à l'heure, mais dans l'acceptation, il y a aussi une certaine recherche de perfection. C'est-à-dire qu'on essaye tout principalement de se surpasser pour dire voilà, j'étais comme ça avant et je veux redevenir comme ça avant. Et en fait, on se met des barrières qui sont trop hautes comparées à ce qu'on peut faire de base. Et ça aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Et tant qu'on n'a pas accepté, les barrières resteront toujours aussi hautes. Ça prend énormément de temps de pouvoir se dire que on doit accepter notre handicap et savoir seulement faire ce qu'on peut faire. Mais après l'acceptation, ça débloque énormément de portes. Parce que dès lors où on a accepté l'accident, on peut se permettre de pouvoir réapprendre une nouvelle vie avec des nouveaux contacts, avec des nouvelles personnes sur lesquelles on ne se serait pas forcément confié avant. C'est pour ça que derrière ça, vous avez aussi parlé de la finitude humaine. Dans la Renaissance, vous dites qu'on a tous une finitude. À côté de ça, quand on a une lésion cérébrale, notre finitude, on ne la reconnaît plus. Parce que le souci, c'est qu'avant, avec cette finitude, on savait ce qu'on était, on savait pourquoi on travaillait, on savait ce qu'on valait. Après la lésion, il y a des changements de comportement. On n'est plus forcément aussi sociable qu'avant. Au niveau professionnel, on n'a pas toujours la même capacité intellectuelle d'avant. Donc les finitudes humaines que vous avez pu évoquer tout à l'heure peuvent être aussi palliées à des changements suite aux lésions. Donc c'est un renouveau qui fait que l'avant-après est très important. Concernant la vie de l'autre, principalement du conjoint, du concubin, c'est extrêmement compliqué pour lui de pouvoir se dire « voilà, avant il était comme ça, maintenant il est comme ça ». Il ne comprend pas comment on est, il ne comprend pas comment on réagit, il ne sait plus avec qui il vit, et il doit complètement réapprendre à vivre avec une personne qui est inconnue. C'est pourquoi on dit oui, des fois, tu peux partir, des fois ils se sauvent, comme vous avez pu le dire, ils s'en vont et on essaie de comprendre pourquoi ils sont partis. Mais le truc, c'est que derrière tout ça, il y en a qui restent. Et ceux qui restent, ils réapprennent à vivre avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils réapprennent à aimer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils réapprennent à comprendre quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et c'est extrêmement difficile pour eux.
Donc, dans toute une série de points que vous avez évoqués, je les entends plus comme une reprise et une confirmation de ce que j'ai essayé de faire passer en le nuançant ou en le complétant judicieusement par d'autres aspects. Juste une remarque éventuellement par rapport à les incompréhensions qu'il peut y avoir dans une relation, hein, donc que ce soit une relation de couple ou bien d'amitié ou que sais-je, le fait que l'autre ne comprenne pas. Donc, premièrement, ce que j'ai essayé de défendre ici ou de souligner, c'est qu'on n'a pas à reprocher à quelqu'un de ne pas comprendre ce que l'on vit parce que de fait, il ne le vit pas. Ça, c'est la première chose. Et ce qui est important, c'est que si vous-même, la personne concernée, on a fait ce travail d'accepter la solitude, on ne le reproche plus à l'autre. Donc, on comprend pourquoi il ne comprend pas. Et donc, ben, j'essaye d'expliquer, je fais tout pour qu'il le comprenne. Finalement, il refuse. Finalement, il ne comprend pas. Eh bien, ça lui appartient. Parce qu'effectivement, il n'est pas à ma place. Et donc, on est moins détruit, si vous voulez, ou on est moins choqué, ou on est moins blessé par l'incompréhension de l'autre. Donc, la solitude, ce qu'elle rend possible, une fois qu'on se l'est réapproprié, c'est d'ouvrir un espace dans un couple, ou bien entre amis, ou que sais-je, où, de fait, les incompréhensions ne sont plus des objections à continuer à vivre ensemble. Alors que souvent, dans l'amitié comme dans l'amour ou que sais-je, ben, si on est ensemble, on se comprend, on est les mêmes, on fait pareil, on s'aime, qu'on se connaît l'un l'autre. Et, ben, non, malheureusement, c'est une illusion dans tous les couples, quels qu'ils soient, quel que soit leur parcours. Et donc, d'apprivoiser la solitude, le fait que l'autre ne vous comprenne plus, ce n'est plus une objection et ce n'est plus un objet de dispute, si vous voulez. Et donc, on peut commencer à mettre des mots sur cette incompréhension éventuellement, ou bien se dire, ben, voilà, mon conjoint en est là aujourd'hui ou mon ami en est là aujourd'hui. Ben, il ne peut pas comprendre plus. Ben, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne vais pas commencer. Enfin, je peux expliquer tout. Il ne veut pas comprendre. Il a le droit. Ça lui appartient. Parce qu'il n'est pas moi, il n'est pas mon prolongement et il ne doit pas être comme je pense qu'il devrait être effectivement. Donc, c'est tout ça que vous avez fait sauter hein, comme exigence par rapport à l'autre. Et du coup, ça donne une place à tous les malentendus sans que ça ne soit destructeur, évidemment. Hein. Enfin, voilà. Mais sur tout le reste, enfin, je rejoins plus ou moins ce que vous dites. Enfin, je pense... qu'il n'y avait pas de désaccord de fond ou de question de fond par rapport à... en tout cas, je n'ai pas entendu. Très bien.
Ah oui, pardon. I'm going to allow one more question because we are running short of time. So, one more.
Une dernière question, alors. Donc, une dernière question. Vous pouvez y aller.
Oui, j'ai juste une question. Donc, vous parlez d'un deuil pour les deux, la personne qui était cérébro-lésée et le partenaire. Donc, ça veut dire que si la personne quitte son partenaire cérébro-lésé, on faut lui pardonner.
Alors, il y a deux choses. Moi, je me mets à un seul niveau ici. Il faut au moins la comprendre. Comprendre, ça ne veut pas dire qu'on pardonne déjà ou qu'on banalise ce qui est passé ou qu'on ne trouve pas quand même que c'est dégueulasse malgré tout ce qui a été fait là. Mais c'est vrai qu'avant que de rentrer dans ces jugements et dans ben voilà, la blessure qu'on a, quoi, hein, comment voulez-vous faire autrement? On se sent trahi par l'autre, abandonné et tout ça. Mais quand on arrive à dépasser donc, cette émotion dans laquelle on est et qui est tout à fait légitime, c'est vrai qu'on peut quand même se demander en essayant de se décentrer, mais comment quelqu'un peut faire quelque chose comme ça? C'est qu'il doit y avoir une raison. On ne fait pas ça n'importe comment. Alors on trouvera d'abord des prétextes, évidemment, pour justifier sa rancœur en disant ben, c'est de la lâcheté, c'est de la faiblesse, c'est tout ce que vous voulez. Mais si vous jouez avec ce que j'ai essayé de raconter ici, la personne avec laquelle on vit, elle est finie, elle aussi. Elle n'est pas toute puissante. Et vous ne pouvez pas lui demander, comme à n'importe qui de toute façon, de pouvoir tout à votre égard et de pouvoir tout supporter de ce que vous êtes, avec ou sans accident, avec ou sans handicap de toute façon. Et donc, quand vous commencez à essayer de comprendre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un salaud quand même, hein, je ne dis pas, mais en attendant, quand on essaye simplement, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un pour oser faire un truc aussi lâche, hein, c'est comme ça qu'on le verra d'abord, que d'abandonner quelqu'un au moment où justement il a besoin d'être soutenu.
Alors qu'à ce moment-là, justement, la personne malade, c'est ce qu'elle a besoin.
Oui, tout à fait.
Pour aller mieux.
Voilà.
Au moins être compatissant.
Bien sûr. Mais le problème, c'est que, de nouveau, quand vous regardez ces situations où de fait ça se passe, on ne peut que considérer la réalité telle qu'elle est vécue par certains du moins, ce que l'on constate, c'est que quand bien même vous en avez besoin, il ne vous est pas dû de l'avoir, incertitude de la vie, et quand bien même vous en avez besoin, l'autre n'est pas toujours capable de vous le donner. Et ça, c'est sa finitude à lui, et ça vous renvoie à la solitude qui est la vôtre. Et donc, le tout, c'est
ça ne vous empêchera pas de critiquer l'autre, mais c'est au moins, me semble-t-il, de lui permettre, enfin, si on lui demandait, hein, s'il pouvait mettre des mots sur ce qu'il a vécu là, ben, c'est au moins de, donc, enfin, vous permettre à vous plutôt de comprendre pour donner du sens à ce qui s'est passé là. Eh bien, voilà, vous êtes face à quelqu'un, c'est sa limite à lui, c'est le point de non-retour. Ça, je veux bien supporter tout, mais pas ça, en tout cas, c'est son point fragile. Ben, vous n'allez pas lui demander de devenir un héros alors qu'il ne l'est pas. Et donc ça permet, à ce moment-là, vous voyez bien, si vous commencez à comprendre, c'est vrai que ce que l'on espère, c'est que ça permet de parler aussi de la blessure que l'on vit soi d'être abandonné ainsi. Mais ça permet aussi de sortir de la rancœur. N'oubliez pas que tant qu'on en veut à quelqu'un, ça veut dire qu'on reste dépendant de lui. Et ça veut dire qu'on n'est donc pas sorti de la relation avec cette personne. Quand bien même il y en a d'autres entre-temps qui sont venus, mais en attendant, oui, mais celui-là, le premier, hein, celui-là, je lui en veux toujours, eh bien, c'est que vous êtes toujours, et les autres ne pourront rien y changer, et c'est même embêtant, parce qu'entre les autres et vous, il y a toujours celui-là, il y a toujours ce premier, et vous êtes toujours dépendant de ce premier à qui vous en voulez. En vouloir à quelqu'un, c'est rester en lien. Donc ça veut dire, en d'autres termes, maintenant, si vous allez jusqu'au bout de ce type de situation, qu'effectivement, quand vous aurez fait votre deuil jusqu'au bout, si vous êtes dans cette situation-là, moi je ne sais pas, enfin peu importe, mais si quelqu'un est dans cette situation-là, aller jusqu'au bout de son deuil, c'est aller jusqu'à, alors c'est le mot qu'on utilise habituellement, vous le prenez comme vous voulez, hein, mais c'est tout simplement aller jusqu'à pardonner à l'autre. C'est-à-dire dans le sens, pas judéo-chrétien ici, mais dans le sens où, à un moment donné, je n'en veux plus à l'autre. Voilà. Et donc je me libère de cette histoire, maintenant c'est fini, je passe à autre chose. Mais tant que j'en veux, je suis toujours dans cette histoire d'avant, évidemment.
Donc tant qu'on espère qu'il soit aussi triste que nous, ça veut dire qu'on a encore...
Mais bien sûr, on est toujours en lien, on est toujours en train de projeter sur lui, on est toujours en train de penser à lui, et donc ça veut dire qu'on est toujours dans cette histoire-là, bien sûr. Mais donc c'est des choses qui ne se font pas comme ça, hein, ça prend du temps, évidemment. Hein. Enfin, voilà.
So, thank you for a great start to the day. May I request you have a very quick coffee, and we meet back at 11:20. And thanks to all our speakers.
Thank you. That was brilliant. Thank you.